Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. L'iPhone serait-il en train de perdre un de ses arguments de vente historiques? C'est la question qui se pose quand on voit les dernières annonces de Google, Samsung et Apple. Les deux fabricants Android s'engagent sur 7 ans de mise à jour logicielle contre 5 pour Apple. Les iPhones vont-ils vraiment vieillir moins bien que les Pixels? On va voir ça avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, on revient sur les toutes dernières rumeurs d'iOS 18 à quelques jours de la présentation officielle du système, et Orange a fait une bonne et une mauvaise surprise à ses clients. Nous sommes le samedi 8 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas rater. J-3 avant le plus grand événement Apple de l'année. C'est lundi prochain que débutera la WWDC 2024, la conférence des développeurs durant laquelle Apple présentera toutes ses nouveautés logicielles. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane. Non, ça ne va pas du tout.
Pourquoi ?
J'ai écouté le dernier podcast de Kernel Panic consacré à iOS 18. D'ailleurs, il est très instructif, je vous encourage à l'écouter. Alors pour l'écouter, il faut être membre du Club IGN. Mais c'est peut-être le moment ou jamais de s'abonner, ne serait-ce que pour un mois. C'est juste 4,99€ et vous apprendrez beaucoup de choses. Mais pour revenir à ce podcast, comment Nicolas a pu dire cela ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Nous dire qu'il n'attend rien de WatchOS, qu'il n'y aura pas de nouveautés, au mieux un cadran ou deux, et que si ça se trouve, Tim Cook ne va même pas aborder le sujet. Mais pourquoi tant de haine ? Nous, on a des... J'ai énormément de requêtes vis-à-vis d'Apple et d'axes d'amélioration pour l'Apple Watch, et je suis persuadé qu'il y en aura ce lundi.
Alors écoute, comme tu as dit, si vous voulez connaître le menu détaillé du keynote, on a consacré un épisode spécial de Kernel Panic sur le sujet cette semaine. Alors, on ne va pas revenir en détail sur tout ça, mais de nouvelles rumeurs sont apparues ces tout derniers jours. On a appris notamment que les fonctions liées à l'intelligence artificielle dans iOS 18 pourrait demander un consentement spécial de la part des utilisateurs. Et oui, parce que comme c'est OpenAI qui pourrait sous-traiter une partie des fonctions, il faudrait que les utilisateurs acceptent les conditions d'utilisation de leurs données par ce nouveau partenaire. On a aussi appris que Craig Federighi avait été convaincu par les IA génératives en testant un service de Microsoft. C'est quoi cette affaire ?
Le Wall Street Journal a publié un article très intéressant à ce sujet. Alors tout d'abord, on apprend que... J'espère bien prononcer, que John Gianandrea, vous m'excuserez, j'ai pas le bon accent, dispose d'un emploi fictif chez Apple. En 2018, le monsieur IA d'Apple, qui était auparavant chez Google, avait pour mission d'améliorer Siri. On est en 2024 et les progrès entre 2018 et 2024 de Siri, c'est pas flagrant. Bon, on espère que c'est vraiment pour cette semaine, pour la semaine prochaine, cela dit. Ceci dit, le papier, il est assez inquiétant et il fait un petit peu l'écho à ce qu'on a pu entendre avec le Vision Pro. Alors, il y a deux axes. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que donc Federighi, il s'est dit « Ah oui, dis donc, l'IA générative, c'est quand même pas mal. Hein. » Alors, il a testé ça à Noël quand il avait un peu de temps libre. Et donc, il a testé Copilot. Alors, il y a plein de Copilot chez Microsoft. Il a testé le Copilot qui est à la base pensé pour les développeurs et qui les assiste quand ils codent. Alors, pour la petite info, nos développeurs utilisaient ce fameux Copilot avant lui. Donc, c'est vraiment se dire qu'Apple avait quand même un peu de retard à l'allumage. Mais bon, comme souvent, quand Apple est en retard, après, elle met tout en œuvre, elle se met en ordre de bataille et arrive assez souvent à rattraper son retard. L'autre axe qui est intéressant dans cet article, c'est que ça montre qu'il y a malgré tout un vrai problème de leadership chez Apple. On l'a constaté également avec le Vision Pro lorsqu'on a eu des échos sur son développement. Le problème, c'est que donc vous avez deux équipes chez Apple qui pendant longtemps ne se parlaient pas trop. C'est l'équipe donc en charge de l'intelligence artificielle et l'équipe menée par Federighi qui se charge du développement de iOS, macOS et des autres systèmes d'exploitation. Et les avancées en termes d'IA qu'on a vues dans les OS d'Apple ces dernières années, comme la reconnaissance de caractère ou genre de choses, on la doit à l'équipe de développement iOS et macOS et non celle dédiée à l'IA. Alors, a priori, d'après ce qu'on a cru comprendre, ces deux équipes et donc les deux dirigeants travaillent mieux ensemble et ça va beaucoup mieux. J'imagine qu'ils se sont pris quand même une petite baffe en voyant les travaux d'OpenAI et que ça a permis de remettre les choses en ordre. Alors, il y a quand même un truc qui est assez scandaleux quand on lit l'article du Wall Street Journal, c'est qu'alors qu'on sait qu'Apple a aucun problème à signer de gros chèques pour faire des séries sur TV+, désolé j'insiste, pendant le même temps, on apprend que l'équipe en charge de l'intelligence artificielle était sous-développée. Alors déjà, Apple s'est mis assez tardivement à gonfler ses rangs. Mais surtout, elle avait par exemple des problèmes de moyens. Elle ne disposait pas de cartes graphiques capables de gérer les immenses quantités de données nécessaires à l'élaboration de grands modèles, des grands modèles de langage. Ça paraît un peu surréaliste hein, quand on connaît la puissance financière d'Apple. Bon, après... Je crois qu'Apple a retenu la leçon, et en tout cas, de ce qu'on entend parmi les dernières rumeurs relatives à iOS 18 et macOS, il y a quand même des choses qui me paraissent très 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 intéressantes. Alors, j'ai l'impression notamment que Apple va revoir Mail en profondeur, que Mail sera capable, lorsque vous répondez à un mail, de vous aider à la rédaction de celui-ci. Alors, j'ai un petit peu peur que cette fonctionnalité soit disponible uniquement en anglais dans un premier temps, parce qu'on connaît bien Apple par rapport à ça. On peut, par exemple, il y a le système d'autocomplétion qui est très pratique en anglais, qui est sorti l'année dernière et qu'on n'a toujours pas pour le français un an plus tard. Et il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'Apple va ajouter aussi un petit peu d'IA dans la fonction recherche de mail pour prendre plus en charge le contexte. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, parce que justement, je ne me disais pas plus tard qu'avant-hier que le moteur de recherche de mail, il était peut-être un peu moins efficace qu'à une époque. Donc bon, on verra ce que ça donnera. Et pour compléter, alors là, on s'éloigne un tout petit peu de l'intelligence artificielle, mais qui sait, la bonne nouvelle, et ça, par contre, ça va faire très plaisir à notre ami Nicolas.
Ah, je vois de quoi tu parles.
Oui, c'est qu'on va enfin avoir une application mot de passe au cœur des systèmes d'exploitation d'Apple. Il était temps, et là, je me fais du souci pour 1Password et autres, mais en tant qu'utilisateur, je ne peux que m'en réjouir, et ça, on va dire que ça va rendre le forfait iCloud, quand on le perd à chaque mois, ça, la pilule sera un petit peu plus facile à avaler.
Oui, c'est ça, ça devrait être plus pratique pour gérer ces mots de passe. Après, pour 1Password, Dashlane et les autres, je ne me fais pas tant de soucis que ça, parce que ces boîtes-là ont quand même pas mal axé leur stratégie ces dernières années sur le côté multiplateforme, le côté famille. Bon, maintenant, le trousseau iCloud fait aussi le partage de mots de passe dans la famille, et aussi de plus en plus sur les entreprises.
Oui, je pense que pour les entreprises, effectivement, ça va rester le socle de ces applications-là. Oui, effectivement,
voilà, donc elles pourraient continuer comme ça leur route. Ouais. Alors, un autre sujet important cette semaine, c'est Apple, qui se fait maintenant concurrencer dans un domaine où elle régnait en maître jusqu'à présent, c'est la durée des mises à jour d'iOS. Alors, depuis peu, Google et Samsung s'engagent à distribuer des mises à jour pendant 7 ans pour leurs smartphones. On parle des mises à jour de sécurité, mais aussi des mises à jour d'Android, ce qui a évidemment son importance hein, pour avoir des nouvelles fonctions au fil du temps. De son côté, Apple s'est exprimée pour la première fois officiellement sur la durée de suivi de l'iPhone. Elle n'avait jamais communiqué jusque-là cette information, mais une nouvelle loi britannique l'y oblige. Et donc Apple a déclaré qu'elle assurerait la mise à jour des iPhone 15 pendant 5 ans au minimum, à partir de leur date de lancement. Est-ce que ça veut dire que les iPhones seront délaissés plus rapidement que les Pixel ou les Galaxy S, Christophe ?
Alors, à la pause déjeuner hier, on se disait qu'on avait l'impression, à lire les commentaires, que Microsoft était plus populaire auprès de notre communauté que Apple, pour un site qui s'appelle Mac Génération. C'est assez étrange, mais voilà, cela illustre peut-être pourquoi certains utilisateurs sont agacés. Alors, je ne sais pas si c'est à juste titre vis-à-vis d'Apple. Alors, on imagine qu'Apple a joué la carte de la prudence, parce que dans les faits, c'est souvent beaucoup plus. Ouais. Je pense qu'il y a ce côté-là. Mais bon, en termes réputationnels, c'est loupé. Certains ne manqueront pas de rappeler et d'insister que Google et Samsung s'engagent à gérer pendant 2 ans de plus les mises à jour de leur téléphone. Alors, voilà, ça c'est entre guillemets pour l'affichage marketing, j'ai envie de dire. Dans la réalité, c'est vrai que si on croit, c'est quand même un petit peu différent. Il y a des iPhones qui sont sortis il y a 9 ans et qui continuent de recevoir des mises à jour de sécurité. Donc voilà, c'est le fond et la forme. Mais ceci dit, une autre décision qui risque d'être également assez impopulaire auprès des utilisateurs, On a alors Apple n'a aucun scrupule à faire monter les prix régulièrement pour Apple Care. On a appris cette semaine qu'elle a fait passer un message auprès des Apple Store pour ne plus remplacer les petites fissures sur les écrans d'iPhone et d'Apple Watch. Désormais, si vous voulez, si vous avez ce type de problème, il faudra payer plein pot.
Et on va terminer le tour de l'actu avec une bonne surprise et une mauvaise surprise de la part d'Orange. La bonne surprise, c'est l'activation gratuite de la 5G pour tous ses clients cet été. Alors l'opérateur avait parlé du 3 juin au 8 septembre, mais tout le monde n'a pas encore reçu ce cadeau. Pour ma part, avec un forfait Sosh, j'attends toujours la 5G. Orange présente ça comme une manière de marquer le coup pour les Jeux Olympiques et de faire goûter la 5G à tous, mais l'opérateur y trouve aussi un intérêt technique, non ?
Écoute, je vais être assez clair, je trouve assez scandaleux de faire payer la 5G en 2024 comme le font nombre d'opérateurs en France. La seule chose que les clients devraient payer, c'est la quantité de data. Après, si vous avez un forfait 5 gigas et qu'avec votre téléphone 5G, vous les utilisez en 30 secondes, en 5 secondes, ça, à la limite, c'est pas le problème de l'opérateur. À ce propos, je pense qu'il faut le souligner, SFR en a profité pour dire que tous ces forfaits seraient désormais compatibles 5G. Bon, si Orange fait cela, c'est pas pour vos beaux yeux, hein. C'est simplement pour des raisons techniques et désengorger ces réseaux 4G. Les Jeux Olympiques approchent et Orange, pas Apple, est chargé de toute la connexion de l'événement et n'a pas le droit évidemment à l'erreur.
Et la mauvaise surprise, c'est l'application Orange Téléphone qui va devenir moins utile. Orange Téléphone, alors c'est une application gratuite qui est disponible pour tous, hein, d'ailleurs, c'est pas la peine d'être client Orange pour l'utiliser, et qui permet de filtrer les appels indésirables sur son iPhone ou sur son smartphone Android. C'est une application très populaire, qu'on a d'ailleurs recommandée plusieurs fois et que certains membres de la rédac utilisent, mais elle va bientôt perdre une fonction gratuite.
Oui, écoutez, il y avait quelque chose qui marchait bien chez Orange, il était temps de régler le problème. On a fait un truc pas pratique et assez compliqué et qui va coûter assez cher. Donc la fonction Orange Téléphone va vous permettre de vous signaler les appels inopportuns, hein, donc on va appeler ça du spam grosso modo. Mais pour les bloquer, comme c'était le cas jusqu'à présent, il va falloir souscrire à la nouvelle offre qui s'appelle, rappelle-moi, c'est Orange
Cybersécurité.
Orange Cybersécurité, qui sera vendue 7 € par mois, mais sans engagement. Elle comprendra la sécurisation de 10 appareils pour contrer les messages malveillants comme les arnaques sur Internet, les virus, les sites frauduleux, les usurpations d'identité et tout un tas d'autres choses. Et donc le blocage de numéros fixes et mobiles. Bref, Orange a, comme elle sait si bien le faire, inventé une usine à gaz qui va coûter cher, dont on peut se poser la question de l'utilité, surtout pour 7 € par mois. Enfin, à la limite, si vous êtes un petit peu parano pour ce genre de choses, je crois que le prix d'un antivirus revient un peu moins cher. Mais c'est ainsi.
Mais écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. On se donne rendez-vous, bien sûr, lundi à 19h sur lekeynote.fr pour un suivi en live de la conférence inaugurale de la WWDC 2024. Bon week-end.
Bon week-end, reposez-vous bien, la semaine prochaine va être chargée et je pense et j'espère qu'on aura plein de bonnes surprises et plein de sujets à discuter la semaine prochaine.
Salut à tous!